Chapitre 3 Mater Dolorosa. Le portier monta dans la journée chez Apolline pour lui remettre un sac d'argent. C'était la somme que Bertholin devait lui faire parvenir incognito après son départ, car il redoutait qu'avant son retour, cette malheureuse sans ressources ne succombât sous le besoin. « De quelle part ?» demanda Apolline. « Je ne sais, mademoiselle. Un inconnu vient de me l'apporter pour vous. » Sans dire plus. Remportez cet argent. Oh, je ne puis, je ne puis. On m'a bien dit pour mademoiselle Apolline. Remportez-le, vous dis-je. Le bonhomme était tout interdit. Apolline, fière et noble, le repoussait d'autant plus durement qu'elle présumait en son cœur que c'était le prix de son déshonneur, que l'homme de la nuit tarifait pour l'humilier encore et l'avilir plus bas. Mais le portier, tout en s'excusant, jeta le sac sur la table et se retira précipitamment. Tout le jour, Apolline fut aux aguets. Elle écouta si elle n'entendrait point, au-dessous, dans l'appartement de Bertholin, quelques bruits, marcher, remuer des meubles, ouvrir les portes ou les fenêtres, mais vainement. Ainsi, elle épia plusieurs jours de suite, sans plus de succès. Enfin, elle se hasarda, un soir, de descendre heurtée. Pas de réponse. Bertholin avait emmené ses domestiques avec lui. L'imbroglio se compliquait. Et la pauvre Apolline y perdait la tête. « A-t-il déménagé ?» se disait-elle. « Mais je l'aurais entendu. Aurait-il quitté Paris ? Et avant son départ, aurait-il comploté avec un de ses intimes l'affreuse fourberie ? Non, non, c'est impossible. Il serait donc bien faux et bien méchant. Oh non !» Bertholin est un homme sensible, et vrai. Qui m'expliquera tout cela ? Elle allait dans sa perplexité jusqu'à douter d'elle-même et se demander si son regard ne l'avait point trompée dans les ténèbres et si ce n'était pas Bertholin lui-même qui s'était offert étranger à son imagination frappée. Pourtant, ce n'était point ses traits. Je ne rêvais pas. Pourtant, ce n'était pas sa voix. Pourtant, ce n'était pas ses manières élégantes. Oh non, ce n'était point lui. Une semaine environ après cette mésaventure, Apolline reçut une lettre datée du Mont-Blanc. Elle était de Bertholin et s'exprimait ainsi. « Pardon, ma belle future, si je suis partie sans vous avoir baisé les mains, j'ai voulu nous épargner des adieux pénibles. Appelée à la préfecture du Mont-Blanc, je suis allée prendre possession de mon royaume. J'espère avant qu'un jour, revoler près de vous consacrer notre union secrètement. » Et aussitôt repartir pour ce pays, qui, je pense, ne vous déplaira point. Vous n'avez pas eu sans doute la maladroite fierté de repousser la faible somme qu'on doit vous avoir remise d'une part invisible. Vous êtes mon épouse, et je souffrirais trop de vous savoir des privations. Cette lettre ne fit qu'accroître l'embarras d'Apolline. Après tant de belles démonstrations, elle n'osait plus accuser Bertholin de noire perfidie. Et cependant, à l'heure dite du rendez-vous, bien informé, un autre était venu en son nom la violenter. Mystère inextricable. La raison la plus plausible était que son billet avait pu s'être égaré entre les mains d'un étranger. Quelque temps après cette première lettre de Bertholin, elle en reçut une autre. On lui annonçait que, surchargé de travaux imprévus, il était forcé de retarder son départ. À cette époque, Apolline commença à ressentir un malaise général. Dégoûté de tout aliment, il lui prenait souvent des tranchées, des vomissements. Son inquiétude devint grande. Un médecin lui conseilla l'usage du safran, qui n'eut aucun résultat. Alors, il la déclara tout net, en grossesse. À cette nouvelle, Apolline tomba dans la consternation et le désespoir. Nuit et jour, elle pleurait amèrement. Sa position devenait bien cruelle. Bertholin lui avait enfin annoncé son retour. Et d'heure en heure, elle s'attendait à le revoir. Que faire en cette fatale conjoncture ? Lui cacher et le duper était chose difficile et malhonnête. Lui déclarer tout franchement, c'était tout perdre. Et cependant, sa délicatesse ne lui laissait que ce parti. Aussi résolut-elle de lui confesser sans déguisement, dès son arrivée, et peut-être espérait-elle que sa générosité lui pardonnerait une faute désespérante, commise pour lui et par lui. Enfin, Bertholin reparut. Dès l'abord, il remarqua un grand changement en elle, une tristesse, un air guindé à son vis-à-vis, une altération et un amaigrissement dans ses beaux traits. Il la comblait de tant de caresses et de tant d'amour que, malgré sa résolution ferme, Apolline n'osait entamer son aveu. 20 fois, le premier mot expira sur ses lèvres tremblantes. Elle n'osa jeter un si grand désenchantement à un homme si grandement épris. Bertholin s'inquiétait aussi. Elle ne savait à quoi attribuer tant de larmes. L'heure de frapper le coup sonna. Les préparatifs et les démarches légales étaient faits. Le mariage était fixé au samedi suivant. C'était à Saint-Sulpice, à minuit, que, devant 2 ou 3 témoins, il devait, en grand négligé, recevoir la bénédiction nuptiale, pour partir le matin même. Le jeudi soir, Bertholin invita Apolline à descendre dans son appartement, et joyeux, la conduisit dans le salon. Le guéridon et le sofa étaient couverts d'étoffes, de châles, de parures, de bijoux. « Voici, ma belle, quelques présents que vous offre votre humble époux. Puissent-ils vous être agréables ?» Apolline se prit tout à coup à sangloter et resta morne à l'entrée. « Qu'avez-vous, mon ami ?»« Approchez, tout cela est à vous. Aimez-vous cette robe de velours bleu, Marie-Louise ? Cette jeannette d'or, ces bracelets de corail, ce cachemire boiteux ?» Alors Apolline tomba de sa hauteur sur les genoux. « Oh, Bertholin, Bertholin, si vous saviez !»« Qu'avez-vous, mon enfant ?»« Si vous saviez combien je suis indigne de tout cela !»« N'est-ce pas, oh mon Dieu, qu'il faut tout lui dire ?»« Je ne sais pas tromper, Bertholin, si vous saviez !»« Vous chasseriez du pied celle que vous appelez votre épouse !» Il était pétrifié. « Écoutez, peut-être êtes-vous coupable de mon crime ? Regardez !» Disant cela, elle arrachait son châle et sa robe plissée qui voilait sa grossesse. « Regardez donc ! Faudra-t-il que je dise ma honte ? Oh, abomination ! Vous, enceinte, Apolline ! Oh, c'est infâme que d'avoir abusé ainsi un vieillard généreux ! Voilà donc l'épouse, la Vierge, que par pitié j'avais choisie. Fille de rien que je voulais grandir ! Prostituée ! 1000 fois mourir plutôt !» criait Apolline, se traînant à ses pieds. « Écoutez-moi, au nom de Dieu ! Vous me tuerez après ! Écoutez-moi donc, ô mon père, écoutez la vérité ! Te tairas-tu, effronté ? Dieu, vois mon innocence et votre crime, car j'étais pure avant de vous connaître ! Infâme ! Car j'étais pure quand vous m'avez élu votre épouse ! C'est vous qui m'avez perdue ! Écoutez ! Avant votre départ, vous me demandâtes rendez-vous un soir chez moi, je l'accordais. À 9 heures, on heurta ma porte. J'ouvre et reçois dans l'obscurité. Je croyais que c'était vous, mon Bertholin. Ce démon contrefaisait votre voix et me trompa. Après un long moment, je succomba, croyant m'abandonner à vous. Il me viola. Apolline, vous en avez menti. Quand ce monstre eut consommé sur moi son attentat, lui-même il m'arracha de mon erreur. À la lueur de la lune, je distinguais ses traits. Il était blême, avait les cheveux roux, les favoris rouges, les yeux caverneux. Il était grand et vêtu de noir. « Apolline, vous en avez menti !»« Oh mon père, croyez-moi, vous en avez menti !»« Je le jure, par ce Christ !» Par ma mère qui m'attend là-haut. Vous en avez menti. C'est à vous que je croyais abandonner mes caresses, et vous me traitez ainsi. C'est vous qui m'avez perdue. Vous en avez menti. Vous avez égaré ma lettre. Ce devait être quelqu'un de vos amis. Vous en avez menti. Oh mon père, sortez de devant moi. Il t'enculle, pauvre Bertholin, à 50 ans, de t'être dépouillé de ta haine pour aller t'abaisser aux genoux d'une fille. Cruelle leçon. Mais c'est infâme, quand j'y pense. Va-t'en, va-t'en, ou je te foule aux pieds comme ces écrins. Va-t'en, si tu veux m'épargner un meurtre. Va-t'en, gueuse, prostituée. Apolline râlait sur le carreau. Bertholin la saisit par les pieds, la traîna et la jeta dehors. Sur le champ même, il repartit.